et à ouvrir l'évangile selon Luc au chapitre 9. Bien voyez-vous, je ne lirai pas un texte classique sur la résurrection, mais je vais lire le texte sur la transfiguration. Luc chapitre 9. Mais nous nous y retrouverons. Tous nos chemins mènent au Christ. Luc, au chemin de la Bible, je m'entends. Luc chapitre 9. Au verset 27. Luc 9, 27. C'est une parole de Jésus. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, 3 apôtres, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui sont morts depuis bien des centaines d'années. Les voici. Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire sa mort. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Il voulait retenir la majesté du ciel dans un petit verre. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui disait « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. La résurrection de Jésus doit nous ramener à nous-mêmes. Il ne faut pas que l'on regarde un objet rare derrière une vitre de musée. Il faut que cette résurrection nous ramène à notre vie parce que nous avons besoin de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu. Sans le Christ, nous ne sommes rien. La Bible dit que nous avons été créés par le Christ. Nous avons été créés pour le Christ. Et nous sommes sauvés par le Christ. Donc notre vie avec Jésus est totalement liée. Se séparer de lui, c'est comme la rivière qui veut se séparer de ses sources. C'est de la folie. Nous vivons de lui. Il faut donc que ça nous ramène à nous-mêmes. Les premiers chrétiens des premiers siècles ont cru bon, résumer la foi chrétienne dans ce qu'on appelle un credo, et ils ont cru bon mettre dans ce credo, au milieu, je crois dans la résurrection de la chair. Parce qu'il fallait que ce soit bien gravé chez tous ces gens qui mouraient souvent entre 25 et 30 ans, il fallait que ce soit bien gravé dans leur cœur, je crois dans la résurrection de la chair. Mais la chair, ce n'est pas seulement le corps. Nous, quand nous parlons de chair, nous pensons aux muscles. La chair dans la Bible, gardons le langage de Jésus, hein, parlons comme lui. Dans la Bible, la chair, c'est le corps, oui, c'est l'âme, l'esprit, la nature humaine, avec ses faiblesses, ses fragilités, ses fatigues, ses souffrances. La chair, c'est tout nous. Mais il est vrai que quand nous parlons de résurrection, nous pensons souvent au corps. Quitter la mort, revenir dans un corps, et on recommence. Ici, le travail, le métro, la famille, le froid, l'hiver. Nous nous trompons. Comme si vivre, c'était absolument revenir dans cette vie. On ne voit que le côté tourné vers nous. Hein. Même quand nous mourrons, l'existence continue, la vie continue. Il y a d'un côté l'immortalité de l'âme, bien sûr. D'ailleurs, en nous, ça crie, ça. Il y a un désir d'immortalité. Et on ne supporte pas la mort de ceux que nous aimons. Dire à quelqu'un « je t'aime », ça veut dire « je voudrais que tu vivres toujours ». Il y a en nous un désir d'immortalité. La Bible le dit, elle dit « Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité ». Ça veut dire la pensée de l'immortalité, qu'il y a une continuité. Et puis, il y a la résurrection. L'immortalité de l'âme ne suffit pas. Pour Dieu, Dieu a décidé, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Église, qu'il ne laisserait rien dans la mort. La mort n'aura pas le dernier mot. Il sortira de la mort notre âme, notre pensée, notre vie, notre corps, tout sortira de la mort. Alors, j'ai choisi ce verset, ce chapitre de la Transfiguration. Jésus, sur la montagne, avec trois disciples, prie. Et pendant qu'il prie, voilà que son visage change. Je pense que ça ne s'est pas fait d'un coup, puisque il y a eu c'est écrit « changer ». Son visage a commencé à changer. Il est devenu resplendissant comme le soleil, dit un autre évangile. Ses vêtements ont changé. Ils sont devenus d'une blancheur éclatante comme la lumière. Moi, je dis, c'est la résurrection au ralenti. Son vêtement même, la tunique, la tunique d'un seul, sans couture, d'un seul tissu, qui est un objet de la terre. Peut-être est-ce Marie qui a fait cela, ou une tante à lui, il avait des tantes. Enfin, la tunique, c'est que ça fait partie de la terre, c'est comme mon costume, comme votre vêtement. Et voilà que sa tunique, ses vêtements sont dans la gloire céleste. La résurrection, c'est un peu tout cela, mais en un instant, en un atome de seconde, en un clin d'œil, dira l'apôtre Paul, pour se faire comprendre. Regardez bien, ici, à la Transfiguration, Jésus, avec son corps, est en train de montrer tout ce qui est en lui, ce Dieu qui est en lui. Dieu est en lui. Il est fils de Dieu. Il ne sort pas de son corps. Il ne laisse pas son corps là à côté, puis lui, il montre ce qu'il était. Il ne sort pas de son corps. Il ne change pas de vêtements. Il n'enlève pas ses vêtements en prenant d'autres vêtements, les vêtements du royaume d'en haut. Tout ce qui est à lui est transformé. Tous ses vêtements. Écoutez bien, tout ce qui est à lui est transformé. Je suis à lui. J'espère que vous êtes à lui. Tout ce qui appartient à Jésus est transformé. C'est écrit dans l'Épître aux Corinthiens. Alors, bien sûr, on se pose des questions, mais quand même, comment ce sera ? Est-ce que ce sera tout nouveau ? Ou est-ce qu'il y a une continuité ? Je vous rappelle encore qu'à la résurrection de Jésus, dans le tombeau de Jérusalem, son corps, on ne l'a pas retrouvé pour qu'il prenne un autre corps. Son corps a été changé. C'est un autre monde, c'est un autre corps dans un sens, mais c'est quand même le même. Quelqu'un un jour qui ne m'a pas fait plaisir. Il a vu de moi une photo qui avait bien quelques années, quoi. Puis je lui ai dit, ça c'est moi, quand j'avais 18 ans. Il me dit, c'est pas vous. Il voulait me dire gentiment, vous avez beaucoup changé. Alors ça m'a fait un peu drôle, mais il a dit, si c'est pas vous, c'est pas possible. Ben, oui, c'est moi, je suis devenu un peu autre, mais c'est quand même moi, je peux vous l'assurer, je sais de quoi je parle. Je pense que dans la résurrection, c'est bien nous, mais autrement, par une transformation, et heureusement, parce qu'on ne restera pas avec les tristesses et les misères de notre corps, surtout pour ceux qui ont le bonheur, peut-être, je dirais quand même bonheur, de vivre très 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 longtemps. Nous restons sur cette trajectoire, c'est un autre temps, un autre monde, et c'est la suite. Et nous retrouverons dans le monde avec Dieu beaucoup de notre temps, beaucoup de notre monde, parce que Dieu, lui, il a des pensées et il a fait les choses comme cela, et ça fait partie de son cœur, de sa pensée. Par exemple, nous ne serons pas là-haut, chacun dans sa bulle, chacun dans une île déserte, tranquille, pas de voisins, nous serons en collectivité. Nous ne serons pas devenus individualistes. Ça, c'est ma maison, ça, c'est mon jardin. On sera en collectivité. Regardez là, Élie et Moïse. Et puis, vous verrez Abraham, vous verrez Isaac, vous verrez Jacob, vous mangerez, vous serez à table avec eux. Oh là là, quelle histoire! Mais la résurrection, la transfiguration, la résurrection n'est pas naturelle. Il y en a qui disent naturellement on va se réincarner. Je ne vois ça nulle part. Je n'ai aucune trace, je n'ai aucune preuve, je n'ai aucune signature, je n'ai rien du tout là-dessus. Rien dans la Bible, rien dans la science, rien nulle part. La résurrection n'est pas naturelle, ce n'est pas automatique. Comme le grain de blé que je mets en terre, pas automatiquement, ce n'est pas le mot. C'est un miracle quand même, le grain de blé. Il va lever. Le papillon qui commence à se transformer en chrysalide, le papillon qui devient de la bouillie, pas besoin de s'en faire, même s'il n'a pas été gentil. Pas le papillon, la chenille. Elle n'a pas besoin de s'en faire, même si elle n'a pas été très gentille, même si elle est tombée dans notre assiette, il n'y a rien à faire, la chenille, elle va devenir un papillon. Mais nous, ce n'est pas automatique. La résurrection, c'est une création de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est une volonté de Dieu. Magnifique. Je pense que là, on touche le sommet des sommets de la beauté. Alors donc, il y a dans cette résurrection, je vous le rappelle, comme une continuité. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, dans la Bible, on voit que quand on sera dans le royaume de Dieu, il y aura encore une terre. Il y aura des cieux. Il y aura des vêtements, mesdames. Il y aura à manger, il y aura à boire. Il y aura de la musique, il y aura des chants. Et puis le reste, écoutez, je ne peux pas tout vous dire, je n'y suis pas allé. J'ai simplement reçu un beau portrait, une carte postale presque, qui est la parole de Dieu, c'est la Bible. Mais je ne sais pas les détails. Le Seigneur a l'air de me dire, de nous dire, laissez-moi quand même vous réserver une belle surprise. Non ? Vous voulez tout savoir ? Ça va vite, vous savez. On y va comme un train qui fonce vers le royaume. Oui, continuité. Mystérieusement, l'apôtre Paul, il dit dans son épître aux Romains, il dit l'univers va participer à la résurrection. Et il dit même l'univers attend la résurrection. Elle attend là que les enfants de Dieu ressuscitent. Mystérieux. Pourquoi nous devons vraiment considérer bien notre vie pour savoir quel est le chemin, quelles sont les conditions. Je n'ai pas dit combien il faut payer, mais comment être sauvé? Que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il faire pour entrer dans cette apothéose? Le cœur, donc, va continuer. Il ne faut pas dire, j'ai souvent entendu ça, oh, vivement qu'on soit libéré de notre corps. Je ne sais pas si déjà vous avez dit ça. Libéré de notre corps. Comme si on était libéré d'un emballage ou d'un vêtement un peu trop juste. Comme si on était libéré de prison. Le corps, il est fait pour être transformé, mais notre corps, pour nous qui avons la foi, dans le Christ, nous qui avons écouté les promesses claironnantes du Christ, le corps, il est fait pour toujours. Nous aurons un corps ressuscité. C'est une idée de Dieu. Une belle idée, non ? C'est une idée de Dieu. Nous donner un corps, mais un corps qui est un peu le prolongement de l'âme. Parce que mon âme, vous croyez que j'ai une âme ? Vous savez, au XVIe siècle, on se demandait si les Indiens d'Amérique avaient une âme. Ces gens bizarres qui n'étaient pas de la même couleur que nous. Est-ce qu'ils ont une âme? Alors on s'est réunis en Europe pour discuter, ont-ils une âme? C'est compliqué, hein, c'est un peu triste quand même. Bon, mais l'âme, c'est, elle ne peut faire quelque chose que par mon corps. Sur la terre, on a fait des ponts, on a fait des routes, on a fait des maisons, des châteaux, des pyramides, mais par les mains. Regardez les mains d'un pianiste. Il y en a un parmi nous. Je ne vais pas lui demander qu'il vous montre ses mains quand même. Les mains du pianiste, ce sont les mêmes mains que les miennes et que les vôtres. Cinq doigts, ok, tout est là, c'est bon, amen. Oui, mais derrière les mains. À travers les mains, il y a une âme qui a appris, qui a un talent, qui sait. Moi, je ne sais pas. Certains savent. Donc, le corps, c'est l'expression de l'âme. Mais l'homme s'est servi de ses mains pour tuer, pour casser, pour déchirer, pour prendre le fruit interdit. Et Dieu a vu ce drame. Et Dieu a vu que l'homme était en train de casser tout. On a tout cassé sur la terre. Un pécheur détruit beaucoup de biens, dit le livre des Proverbes. Un homme suffit pour détruire le monde, hein. Faut pas grand-chose. Je dis chose parce que quand on peut faire ça, on n'est rien. Dieu a vu le drame et Dieu n'est pas resté dans sa tranquillité. Imaginez une femme, une mère de famille, une maman qui dirait par exemple, j'ai plusieurs enfants qui sont tous dans une détresse et une souffrance extraordinaire. Mais moi, je suis très, très, très heureuse parce que ça ne me touche pas. Voyez-vous, bien sûr, ils sont tous en détresse, mais moi, ça ne me touche pas, je suis très heureuse. On dirait que c'est une femme monstrueuse. C'est une femme qui n'a pas de cœur. Et Dieu qui est amour. On a le sentiment que le ciel, quand il est bleu, que tout est calme, tout est tranquille. Dieu souffre. Dieu, dans la Bible, même pleure. Dieu verse des larmes. Dieu gémit. Dieu souffre, et en créant l'homme, en nous créant, il a pensé, il a prévu. Il a prévu la résurrection comme un dépassement, pour ne pas qu'on s'arrête là, net, sur un mur. C'est fini. Voilà, on n'existe plus. On a fait le mal, on meurt, c'est fini, une pelletée de terre et on n'en parle plus. Dieu a prévu un dépassement. Pour qu'on reste, pour qu'on soit toujours en marche vers lui, à côté de lui. Et pour cela, il a décidé d'entrer dans notre fragilité, il a pris notre nature humaine, il s'est fait homme pour mourir afin de nous faire entrer dans la vie. Il est entré dans notre mort pour nous faire entrer dans la vie. Donc la mort, c'est la résurrection, une forme de vie qui s'arrête et une autre forme de vie qui commence, d'un passage. Pâques veut dire passage. Nous sommes tous à Pâques. Chaque jour, c'est Pâques parce qu'on passe. Sur la terre, on passe. Et le plus grand passage, ce n'est pas le jour de notre mort, ce n'est même pas le jour de notre résurrection, écoutez bien. Le plus grand passage d'un être humain, c'est le jour où nous disons « Seigneur Jésus, sauve-moi ». C'est le plus grand passage. Le reste, Dieu s'en charge admirablement. Amen. Mais ce passage-là, il m'appartient. J'en dirai un mot pour finir dans quelques instants. La résurrection. Nous sommes portés, là. Paul dit transportés. C'est un changement sur lequel on n'a aucune prise, on ne peut rien faire. J'ai assisté à des dizaines de personnes qui sont mortes, des jeunes, des enfants, des gens adultes, des personnes âgées. Même âgées, la mort reste toujours un drame, mais on ne peut rien faire, on ne fait rien. Les gens n'ont plus de volonté, plus de force, plus de pensée, plus rien. Nous sommes sans pouvoir de décision sur ce changement. Tout nous vient par Jésus-Christ. Il s'occupe de tout. Il a dit, je vous ressusciterai au dernier jour. C'est beau. Parce qu'on va rentrer dans un temps qui va durer quand même quelques années, peut-être quelques siècles, je ne sais pas. Mais il nous a promis, je vous ressusciterai au dernier jour. C'est lui le passage, le chemin. Même, je vais dire, le passeur. C'est lui la Pâque qui nous conduit à travers la mer Rouge, à travers la vie, la mort, c'est lui. Si je ne suis pas accroché à lui, je suis rien. Mes efforts ne suffiront jamais. Je suis incapable de me lever de terre, de me changer moi-même, même dans le caractère. Incapable. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Mais le Christ s'appelle dans la Bible le premier né des morts. Et nous ferons ce passage avec lui. Il sera là. Comme lui. Nous serons semblables à lui. Je lance le filet en vous disant, mes amis, pensez-y. Restez pas plongés dans certains péchés, certains travers qui déforment notre mentalité, qui ne permettent plus de voir Dieu. Les cœurs impurs ne voient rien. Ne voit rien, à part la soupe, les vacances, les week-ends, le soleil. Heureux les cœurs purs, disait Jésus, car ils verront Dieu. Dans la résurrection, notre corps devient céleste, parce que l'apôtre Paul, il a une drôle de façon d'expliquer la résurrection. Il dit, Dieu a fait la chair des poissons. Le poisson, il est bien adapté à son milieu. Il a fait la chair des animaux, des quadrupèdes, des lions, des tigres, des écureuils. Puis il a fait la chair de l'homme, et puis il a fait la chair des gens célestes. Il a fait une chair tout à fait différente pour le royaume de Dieu. Une chair, un corps, une âme, une personne, une nature qui s'adapte bien au monde d'en haut. Vous avez vu les cosmonautes, quand ils commencent à s'élever, comme c'est compliqué. Enfin, j'y suis jamais allé. Vous avez vu comme ils sont harnachés, comme c'est compliqué de s'élever un peu de terre. Dieu va nous faire une nature, un corps qui sera adapté à l'approcher, à le croiser, à lui parler, à le servir, sans avoir la bouteille d'oxygène. Dans la résurrection, notre corps devient plein de gloire, de splendeur, de force, de beauté, de fraîcheur, de jeunesse. Dans la résurrection, nous verrons Dieu en chacun. Tout sera transparent, nous serons transparents. Il y a des poissons transparents, vous savez. On voit à travers, mystérieux. Dans le royaume de Dieu, transparent dans le sens que Dieu sera vu en chacun. Comme la Nouvelle Jérusalem, la ville céleste, elle est transparente. On voit Dieu à travers. Et ce que nous avons fait de bien, dans la charité, la compassion, la justice, miséricorde, restera. C'est beau. Ça restera. Souvent, les gens disent, mais je fais tout ça, mais à quoi ça sert? Après moi, c'est fini. Ben oui. Après vous, peut-être que votre maison va être renversée pour ce qu'on va faire une route, là, justement. Mais ce que vous avez fait de bien restera et sera transfiguré comme le vêtement de Jésus. Oh, vous savez que dans la Bible, nous aurons un vêtement dans le ciel, et ce vêtement, dit l'apôtre, ce sont nos œuvres. Nous porterons sur nous une trace de nos œuvres de la terre qui seront lumineuses, transfigurés, ressuscités. Et nous serons tous différents. L'apôtre Paul dit, une étoile est différente d'une autre étoile. Bon, il prend une image toute simple pour nous dire, Abraham c'est Abraham, moi c'est moi, et vous c'est vous, et nous serons différents. Nous ne serons pas tous sur le même modèle. Mais l'essentiel, mes amis, c'est d'entrer dans ce mouvement de la résurrection de Jésus. Voilà, et ça c'est l'essentiel. C'est d'être dans le train. C'est se défaire de tout ce qui nous retient dans la mort. Se défaire de tout, du mal, du péché, hein, pour dire les mots, qui nous retiennent là, dans la pesanteur d'esprit, d'intelligence, de vie, pesanteur par le péché. Extraordinaire. En rencontrant un homme riche, un jeune homme, qui avait tout pour plaire pour être marié, tiens. Et toutes les qualités, même l'argent. Il lui a dit, si tu veux entrer dans la vie, parce qu'il dit, voulait entrer dans la vie de Dieu, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Vends tout ce que tu possèdes. Oui, aïe, aïe. Parce que pour lui, c'était un frein. Viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Parce que cet homme ne pouvait pas venir avec sa manière de vivre. Il ne pouvait pas entrer dans le ciel avec cette manière de vivre. La résurrection, mes amis, est commencée pour ceux qui ont confiance en Jésus. Déjà en nous, on se sent bien. Il ne faut pas le dire à tout le monde parce qu'on n'est pas des phénomènes. Hein. On se sent bien. On sait. On sait où l'on va. On sait pourquoi on vit. On sait pour qui on vit. On connaît le chemin du mal, du bien et le Seigneur. Il y a une naissance qui a commencé, un enfantement, une transformation. Trans, ça veut dire passage. Transatlantique, premier bateau qui traversait. Transformation. Trans, ça veut dire passage de la mort vers la naissance. On dirait, pasteur, vous mettez les choses à l'envers, là. On commence d'abord par la naissance, puis après on va vers la mort. Eh bien non, dans la Bible, ce n'est pas ça. On commence d'abord par la mort, on fait mourir les choses mauvaises, et après on peut naître, renaître. Mais je vais conclure en me posant la question, mais enfin, pasteur, avez-vous des garanties pour tout ça? Parce que ce que vous dites est tellement fabuleux. Avez-vous des garanties pour qu'on soit bien sûr? Avez-vous des repères? Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'en revient. Il y a dans la Bible une parole, dans l'Ecclésiaste, « Tous les fleuves vont à la mer ». Bon, c'est une parole toute simple, hein. Tous les fleuves vont à la mer. Bon, enfin, si on creuse un peu, ça veut dire les fleuves ne reviennent pas. Tout le monde va vers la mort et personne, pour l'instant, ne semble revenir. Eh bien, la garantie que j'ai, la certitude, le repère que j'ai sur la résurrection, bien, c'est tout simplement le témoignage de ceux qui l'ont vu. La nuit, je ne vois pas le soleil, mais la lune, elle voit le soleil. Et la lune, elle me renvoie de la lumière. Et moi, je n'ai pas vu la résurrection de Jésus, mais les apôtres ont vu la résurrection de Jésus. Ils nous le disent, ils nous éclairent. C'est eux qui, par leurs paroles, produisent en nous la foi. Après la résurrection de Jésus, Pierre et Jean vont au temple et là, ils rencontrent un SDF, un malheureux, presque rien. Un pauvre manant, un pauvre mendiant, handicapé, infirme, qui tendait la main, faisait la manche. Pierre et Jean disent, regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il était mort, Jésus. Il était ressuscité, mais tout le monde pensait qu'il était vraiment mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire qu'il est toujours vivant. Lève-toi et marche. Et le boiteux s'est levé. Oh, ils ont été inquiétés. Ils ont été au tribunal pour ça. Ils ont été malmenés. Et puis Pierre, il a pris la parole en disant, c'est par le nom de Jésus que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité. C'est par lui que cet homme est en bonne santé maintenant parmi vous. Comment ? Jésus n'est pas mort complètement ? Comment ? Il fait des miracles alors qu'on l'a enterré ? Il est ressuscité ? Pierre disait, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Et il est apparu dans sa résurrection. Pas à tout le monde, mais à ceux que Dieu a choisis d'avance. Et il a mangé avec nous dans sa résurrection. Il a bu avec nous dans sa résurrection. Donc, eux, ils peuvent le dire. Pas moi, eux, ils peuvent le dire. Nous ne voyons pas le soleil. Avez-vous déjà remarqué que vous ne regardez jamais le soleil ? C'est pas la peine de le faire, ne le faites pas. On ne regarde pas le soleil, mais la lumière du soleil, quand il y en a comme aujourd'hui, ça remplit le monde. On ne voit pas la résurrection, mais la lumière de la résurrection, elle remplit le monde. Écoutez les disciples, moi je ne les reconnais plus. Écoutez les prêcher. Ils prêchent avec force la résurrection de Jésus-Christ. Ils sont courageux, prêts à mourir. Ils n'arrêtent pas. Et aujourd'hui, il y a des disciples qui sont passés de la drogue, de l'alcool, du péché, du vice. Ils sont passés dans une vie consacrée, une vie donnée, une vie pour l'amour, pour prêcher le Christ, des transformations. On ne voit pas le soleil, on voit la lumière. On ne voit pas la résurrection, on voit les effets. Au fait, pour la résurrection, quand Pierre prêchait, je vous assure que ça agaçait les gens, les responsables. Il disait avec force, Jésus ressuscité. Vous l'avez tué, mais il est ressuscité. Mais je vais vous dire quelque chose. Je pense que pour arrêter tout cela, si Jésus n'était pas ressuscité, je pense qu'on aurait retrouvé quelque part son cadavre et on aurait dit, messieurs, regardez, il est là. On aurait fait un procès verbal, on aurait fait une attestation signée avec des coups de tampon partout, puis on aurait dit, Jésus, il est bien mort, il y a des restes, il reste des ossements, il reste plein de choses, mais personne. Ils auraient bien voulu pour calmer cette secte dangereuse des chrétiens. Ils auraient bien voulu trouver quelques restes de Jésus. Rien pour contredire, à part la violence. On a frappé Pierre, on a tué Jacques, etc. Et le tombeau vide. Le tombeau vide, ce n'est pas une preuve. On a pu prendre le cadavre. D'ailleurs, des gens ont été payés. Aujourd'hui, on peut te payer pour tout, hein. Ils ont été payés pour dire, ils sont venus prendre le cadavre. Quel argent sale. Le tombeau vide, je terminerai là. Ce n'est pas une preuve totale. Parce qu'il aurait pu être, se réanimer, il aurait pu être volé, il aurait pu être pris. Donc un tombeau vide, ça veut... Un jour, je suis allé dans... une abbaye, et puis là, il y avait plusieurs tombeaux. Je regardais dedans, ils étaient vides. Ils avaient plus de mille ans. Il ne restait plus rien dedans. Bon, enfin, ce n'est pas une preuve qu'ils sont ressuscités. Pierre et Jean, je finis. Le jour de la résurrection de Jésus, ils ont été avertis. Ils ont couru au tombeau. La première, c'est les femmes. Honneur aux dames. Marie de Magdala. Les apôtres Pierre et Jean courent. Ils se sont penchés sur le tombeau. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans le tombeau? Les bandelettes et le linge. Prêtez attention. Quand Jésus est mort, le jour même, on a mis sur Jésus, c'était la tradition, c'était la façon de faire autrefois, on a mis sur Jésus des aromates. Vous savez combien? 30 kilos. Les aromates, c'était des herbes aromatiques. 30 kilos. C'est Joseph d'Arimathée qui a fait cela. Et puis, des bandes. Des petites bandes. Et sur la tête, comme un foulard. Pas sur le visage, la tradition, c'était pas cela. Sur la tête, on mettait un suaire. Le visage était découvert. Il était dans un véritable cocon de bandes et de plantes, de parfums. Ça sentait bon dans le tombeau de Jésus. Et quand ils se sont penchés, si ça avait été une réanimation de Jésus, qui dit « Oh là là, je me réveille », il aurait enlevé ses bandes. Ou si on l'avait volé, on aurait enlevé les bandes pour le prendre. Les bandes sont restées. Le suaire est là. Jésus n'est plus dedans. Je vais vous dire, il est passé au travers. Quand on regarde le texte de l'évangile de Jean, je résume pour ne pas vous charger, les bandelettes sont affaissées. Il n'y a plus rien dedans. Le suaire, le linge est à part. Il n'est pas chiffonné, là, n'importe comment... Parce que le suaire était là et les bandelettes étaient là. Donc le suaire est à part, le linge. Il n'est pas plié, en langue grecque, il a une forme arrondie. Oh là là, je trouve que c'est parfait. Une forme arrondie. Jésus est parti, mais le linge a gardé la forme de la tête. À part des bandes. Et ça, ça impressionnait Pierre. Ça impressionnait Jean. Et là, ils ont été convaincus. Et ils ont cru. Parce que personne ne pouvait sortir Jésus de son sarcophage de parfums, de plantes. Personne ne pouvait le sortir. Il ne pouvait pas sortir sans tout défaire. Il est sorti, tout est resté. Il est sorti. Il n'est pas dit qu'il y avait un grand suaire, hein, des bandes. Alors maintenant, je vais conclure en vous disant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Quand on voit ces preuves, quand on voit ces gens qui ont vu Jésus, qui l'ont touché, qui ont mangé, il ne faut pas seulement le savoir, il ne faut pas seulement voir Jésus, il ne faut pas seulement croire en Jésus, écoutez bien. Il ne faut pas seulement croire en Jésus. Là, je ne suis pas un bon pasteur quand je vous parle comme ça. Il faut un acte de confiance, il faut un engagement personnel. Parce qu'on peut dire, bah oui, c'est vrai, bon, oui, c'est pas mal. Pour dire le contraire, il faut un engagement personnel. Il faut dire mon berger, ma lumière et mon salut, mon Seigneur et mon Dieu, disait Thomas. Jésus est à la porte aujourd'hui. Je me tiens à la porte et je frappe. Et cette main qui frappe, elle a une cicatrice, la cicatrice de la croix. Il se tient debout à la porte, il n'est pas couché à la porte, il est debout. Et il frappe constamment. Vous n'entendez pas sa voix ? Quelle humilité de Jésus ! Ressuscité aujourd'hui, il peut rentrer comme il veut chez vous. Non, il ne rentrera jamais chez vous. Pas la peine de mettre de verrou. Vous pouvez laisser la porte fermée, il frappera seulement. Pourtant, la maison est à lui. Hein. Il fait de nous ce qu'il veut. Mais il attend qu'on ouvre. Il attend l'engagement de foi, la décision. Mais quand il est entré. Bah, écoutez, essayez. Il va tout changer. J'ai vu ça une fois à la télévision, je ne sais pas si vous avez vu, c'est ces gens qui rentrent dans une maison et puis qui changent tout. Ils transforment tout, ils mettent du papier peint, de la peinture exactement comme il faut, transformation. Mais quand Jésus rentre chez nous, il transforme tout, il transfigure tout, il ressuscite, il nous fait passer de la mort à la vie, il nous pardonne, il nous lave, il nous aime. Amen. Parce que la résurrection du Christ, je vais vous dire une vérité, c'est un acte d'amour. Tu n'es pas obligé de le faire, parce qu'il veut rester avec nous et nous conduire dans la résurrection. Amen. Prions le Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité, parce que nous avons tout à gagner. Tout à vivre, tout à espérer, si nous mettons aujourd'hui nos mains dans les mains du Seigneur, si nous regardons dans sa direction et si nous accueillons avec douceur sa parole. Seigneur, nous avons tout devant nous, tout est à nous, le présent et l'avenir. Seigneur, nous te demandons de nous convaincre, de mettre en nous la parole qui ressuscite, la lumière qui éclaire le chemin, l'espérance qui nous fait chanter. Mets en nous le bonheur de savoir que nos yeux te verront et que nous serons semblables à toi pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Merci au Seigneur. Mes amis, quelques instants, réfléchissez à tout ce que nous avons médité cet après-midi. Pensez à votre vie. Vous ramez parfois tellement difficilement. Il y a résistance sur résistance. C'est difficile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Parce que la vie, c'est dépendre de lui. Alors, en ce jour de Pâques, tout ensoleillé, je pense qu'on pourrait ensemble se tourner vers le Seigneur et peut-être faire une prière que vous pourrez faire résonner en vous, répéter en vous, pour vous aider à prier, à faire ce grand pas. Petit aux yeux des autres, oui, mais grand aux yeux de Dieu. Ouvrir la porte à Jésus qui frappe. Seigneur, tu nous fais entendre ta voix aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma porte. Pardonne-moi mes fautes, mon orgueil, mon incrédulité, qui sont des nuages noirs dans ma vie. Pardonne-moi et conduis-moi vers la vraie vie. Que tes chemins soient toujours devant moi. Que tes paroles soient toujours dans mon cœur. Que ta force d'amour me guérisse, me console, me transporte. Au nom de Jésus, je te donne mon cœur. Amen.